I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Ilana a su très tôt qu'elle voudrait devenir maman et avait une vision idéalisée de la maternité. À 34 ans, elle tombe enceinte, vit une grossesse assez douce et un accouchement physiologique comme elle le souhaitait. Pensant avoir fait le plus dur, Ilana va rapidement déchanter en s'isolant petit à petit dans une dépression postpartum. Elle découvre les difficultés maternelles dont personne ne lui a jamais parlé et finit par demander l'aide d'une professionnelle. 2 ans plus tard, Ilana prend connaissance de la censure d'une publicité montrant une femme en postpartum et c'est alors que son combat commence. Avec 3 amies, elle lance le hashtag Mon Postpartum pour que les tabous sur l'après-accouchement soient levés, pour que toutes les femmes aient connaissance d'une réalité que la société veut édulcorer. Cela fait le tour des réseaux sociaux et est rapidement médiatisé. Dans cet épisode, Ilana retrace son parcours de grossesse à Tel Aviv. Elle nous parle de ses débuts dans la maternité, de la méconnaissance du postpartum. On parle aussi de son militantisme féministe et de son souhait de le transmettre à son fils. Bonne écoute.
Bonjour Ilana.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Avec plaisir.
Alors, tu es la maman d'un petit garçon.
Ouais, qui a 3 ans.
Il a 3 ans. À quel moment, toi, le sujet de la maternité est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis toujours, longtemps, pas du tout?
Ouais, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, la question de la maternité, c'est arrivé très très tôt dans ma vie, dans mon esprit. J'ai des souvenirs, même petite fille, où je fantasmais de devenir mère et je fantasmais beaucoup ce rôle de mère. Je pouponnais beaucoup. C'était quelque chose de très présent et vraiment des souvenirs très tôt en fait, hein, où même je voyais des femmes allaiter étant, je dois avoir autour de 10 ans, et je trouvais ça absolument fabuleux, magnifique. Je m'imaginais déjà plus tard, je parlais de ça avec ma mère. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très fantasmé pour moi, la maternité. Et plus tard, quand j'étais ado et puis jeune fille, je pensais toujours à ce moment où j'allais devenir mère. C'était une espèce de but comme ça, ultime, et j'y pensais beaucoup. Donc, ouais, ça a été très présent, très tôt. Et ce que je dis souvent, c'est qu'une fois que ça arrivait, moi, ça arrivait un peu pas tard, mais bon, j'avais déjà 34 ans. 33 ans quand j'ai eu mon fils. Donc, c'était pas non plus super tôt. Mais c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment déconstruire et déchanter en partie aussi sur cette question de la maternité.
Du coup, le fait qu'avant 34 ans, tu n'aies pas d'enfant, est-ce que tu te posais des questions par rapport à tout ça? Est-ce que tu avais des craintes de ne pas devenir maman?
Non, jamais eu de crainte. Je me suis toujours dit, de toute façon, je deviendrai mère, c'est évident. Mais je ne me posais pas beaucoup de questions. Et c'est aussi un problème, c'est d'arriver en fait dans ce champ-là en étant complètement naïve. Et en ayant pour modèle que ce qu'on nous donne à voir en réalité, qui est l'idée que être mère, c'est forcément merveilleux, c'est forcément épanouissant, ce qui peut l'être en partie, mais c'est pas que ça. Et le problème, c'est justement qu'on ne parle pas de ce qui est plus sombre et plus compliqué. Et donc, en arrivant dans la maternité, je me suis pris un mur, quoi, en me rendant compte des aspects beaucoup plus sombres que je n'avais pas du tout envisagé. Et c'est pas uniquement de mon fait, c'est vraiment, parce que très souvent on nous dit, elle est bête, elle est naïve, elle aurait dû se renseigner, mais ce qu'on nous montre dans la culture populaire, dans les productions culturelles, c'est juste un pan de la maternité, on nous explique que de toute façon c'est que du bonheur, etc. Donc, c'est pas une faute individuelle, c'est quelque chose de collectif qui nous amène à penser que de toute façon ce sera facile, naturel, fluide et que du bonheur, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus vaste que ça et beaucoup plus complexe.
Et toi, t'avais quelle vision? Tu te souviens de ce que tu imaginais justement quand tu as su que tu étais enceinte, par exemple?
Moi, j'avais une vision, mais enfin vraiment encore une fois, ultra naïve. Je suis rentrée dedans, où je me disais de toute façon, ça va être merveilleux, surtout que j'ai eu une grossesse assez facile. Donc c'était un petit peu trompeur parce que j'ai une grossesse très simple. J'étais un peu le cliché de la maman qui, physiquement, j'avais très peu de maux de grossesse. Je me sentais bien. J'étais physiquement vraiment dans une de mes meilleures formes. Moi, je suis anémiée en règle générale. J'ai une anémie. Enfin, c'est génétique. Et pendant ma grossesse, bizarrement, mon taux de fer était au plus haut. Enfin, j'étais vraiment dans un super état physique. J'ai fait du sport jusqu'à la fin de ma grossesse. Enfin, j'étais vraiment très très bien. Et donc, je me suis dit. Voilà, en fait, on est sur une route super positive et puis je ne pensais pas du tout à ce qui pouvait se passer après l'accouchement. Et c'est vraiment moi le postpartum qui a été le moment où j'ai réalisé que c'était beaucoup plus dur que ça. C'est ni la grossesse ni l'accouchement qui n'a pas été super évident, mais qui a été quand même très empouvoirant pour moi. J'ai eu un accouchement naturel qui a été long et laborieux, mais où je me suis sentie puissante. Mais la période juste après l'accouchement et les mois et même, je dirais, les 2 années qui ont suivi ont été très, très dures pour moi.
Alors, on va revenir sur déjà le suivi de la grossesse. Toi, tu vis à Tel Aviv. Ouais. Est-ce que c'est différent du suivi en France? Est-ce que tu es plus suivie? Est-ce que c'est très médicalisé? Comment ça se passe?
C'est un peu similaire. On retrouve quand même un peu les mêmes types de suivi dans beaucoup de pays occidentaux. Moi, j'ai toute ma famille en France, énormément d'amis en France. J'ai grandi en France jusqu'à mes 26 ans, donc je connais un peu le système et j'ai de toute façon des contacts et je suis ce qui se passe en France principalement. Et c'est très similaire. C'est-à-dire qu'on a un accompagnement de la grossesse qui est assez médicalisé et assez rapproché. On a une préparation à l'accouchement, mais on a zéro information sur ce qui se passe derrière. On a zéro information sur ce qui se passe après l'accouchement. On n'a pas de préparation postpartum, on n'a pas d'information sur cette période-là qui, pour moi, est aussi, voire plus importante que ce qui précède. C'est assez similaire à ce qui se passe en France en termes d'accompagnement derrière, en termes de les congés parentaux, par exemple, c'est encore plus réduit. Le père a 3 jours de congé parental. Donc c'est minable. Enfin, c'est rien, quoi. Ouais.
Et alors, accouchement physiologique, comment tu t'es préparée à ça? Tu as été accompagnée par qui? Comment tu as décidé est-ce que c'était évident pour toi de faire un accouchement physiologique?
C'est quelque chose qui s'est fait dans les premiers mois de la grossesse et ça fait aussi partie, je pense, c'est aussi un problème d'une certaine manière parce qu'on imagine quelle mère on va être avant même de vivre les choses, avant même de rencontrer son bébé et de voir, alors, est-ce que l'allaitement me convient? Est-ce que le cododo, le maternage proximal, etc., est-ce que tout ça me convient? Et j'étais déjà rentrée, en fait, dans une espèce de fantasme de quelle mère je serais, de toute façon. Et j'ai commencé à suivre des dizaines de groupes sur Facebook allaitement longue durée, maternage proximal, etc., etc. Donc, j'étais vraiment dans cette mouvance de tout faire, enfin, de répondre au maximum aux besoins de mon bébé, mais de façon ultra naturelle, ultra proximale, et ce que j'ai fait finalement, mais j'étais tellement en fait dans cette idée que pour être une bonne mère, il fallait que je fasse ça, que quand je ne collais pas exactement à l'image que je m'étais faite, je me sentais super défaillante et je culpabilisais énormément. Et ce que je dis souvent en fait en conseil à une future mère, c'est de ne pas en fait imaginer dès maintenant quel genre de mère elle sera et de voir en fait d'écouter aussi ses besoins à elle, d'écouter son bébé, de voir la dynamique entre les deux et puis sur le moment en fait décider, arrêter quand on sent qu'il faut arrêter. Je parlais il y a pas longtemps dans un autre podcast de mon allaitement et j'ai allaité exclusivement pendant 8 mois et sur les 2 voire les 3 derniers mois, j'ai pas aimé ça et je l'ai fait par je sais pas pourquoi, je me suis forcée en me disant c'est mieux, il faut que j'allaite longtemps, il faut que j'allaite exclusivement et c'est vrai que ça a été en fait hyper délétère pour moi parce que j'ai mal vécu ma fin d'allaitement et j'en ai un mauvais souvenir alors que j'ai adoré ça au départ. Et si je m'étais écoutée davantage justement au moment où mon corps me disait bah là en fait puis même ma tête hein, je regardais plus mon bébé quand j'allaitais, je sentais que j'avais plus envie de ça. Et j'ai continué. Et donc, c'est toutes ces espèces d'images que je m'étais, en fait, forgées pendant ma grossesse et même avant en me disant, voilà, je vais être telle mère. Et c'est aussi comme ça que j'avais décidé de faire un accouchement physiologique. Mais bon, ça, j'étais contente d'être allée au bout. Mais c'était aussi une espèce, parce qu'on se met des espèces de challenge sans savoir si ça va nous correspondre au moment T. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça peut être violent, en fait, parce qu'on soit on culpabilise, soit on va au bout, mais en fait, on n'était pas en phase, et du coup, ça peut créer des micro-traumas ou des vrais traumas au moment de l'accouchement ou des choses comme ça. Et c'est pas la meilleure chose à se faire, quoi, à s'infliger. Mais alors, concernant l'accouchement, je m'étais préparée avec une doula. Donc, j'avais pris une doula autour de mes 4-5 mois de grossesse. On se voyait régulièrement pour faire des exercices. C'était de hypnobirthing, donc c'était avec de l'hypnose et des exercices de mentalisation et de l'imagerie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils ne voulait pas sortir. Donc, je suis arrivée au terme plus 10 jours. J'étais vraiment, ouais, j'étais au max du max à la maternité. Ils m'ont dit, bah non, mais là, j'étais allée pour un contrôle de routine sur la fin. Ils m'ont dit, bah là, faut qu'on vous fasse accoucher, faut qu'on vous déclenche l'accouchement. Et je voulais pas. On m'avait dit que le déclenchement d'accouchement, c'est les contractions étaient beaucoup plus douloureuses et j'avais peur de ça. J'avais envie d'un accouchement naturel dans la salle naturelle. Et avec un déclenchement, j'avais pas accès à cette salle-là. Donc j'étais vraiment, je me suis mise à pleurer. Je dis, mais c'est pas ce que j'ai imaginé. Et le fait justement d'avoir cette espèce d'image où on a une idée, on veut accoucher comme ça. Et puis si on reste trop bloqué parce qu'il y a des choses qui font que, bah, parfois on peut pas avoir exactement ce qu'on voulait. Ça peut être assez violent et du coup, moi, je me suis laissée convaincre. Ils m'ont dit, voilà, le bébé en plus était déjà assez conséquent. C'était un bon bébé. Ils m'ont dit, faut qu'on vous déclenche l'accouchement. Donc on me l'a déclenché. J'ai quand même été jusqu'au bout sans la péridurale, mais sur la toute fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à le sortir toute seule. Donc comment ça s'appelle, les forceps, c'est ça, quand il, enfin la poussée, en fait il tire sur la tête du bébé avec une espèce de pince, c'était les forceps je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, mais j'ai quand même un souvenir très très fort de cet accouchement et je me suis dit voilà, j'ai quand même j'étais avec ma doula, j'étais avec mon mari, c'était une cellule vraiment hyper entourante, hyper enveloppante et ça s'est bien passé malgré le fait que ça n'a pas été exactement ce que je voulais, mais ça s'est bien passé. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que le moment où on m'a posé mon fils sur la poitrine, je me rappelle vraiment hyper, de façon super vive, que je me suis dit, ça y est, c'est fini, le plus dur est passé. Je me suis dit, c'est bon, il est là, maintenant ça va être facile, ça va être vraiment comme, encore une fois, que du bonheur. Et je ne me suis pas du tout imaginé que ça ne faisait que commencer.
Et alors juste ta doula, tu l'avais trouvée comment? On te l'avait recommandée
Ouais, on l'avait recommandé sur un groupe que je suivais, donc de doula israélienne, et elle avait été recommandée par beaucoup de gens, et j'ai vraiment eu un super contact avec elle. Franchement, ça a été, sans elle, j'aurais pas été au bout sans la péridurale, je me serais pas sentie aussi forte parce qu'elle m'a, aussi bien sur le plan physique que psychologique, elle a été, c'était vraiment un ange gardien, quoi. Et le fait d'avoir mon mari, d'être comme un triangle comme ça, où j'avais mon mari qui était là, qui me connaît, qui sait comment, m'aider psychologiquement, et la doula qui est une experte de l'accouchement, et mon mari qui est un expert de ma personne en quelque sorte, c'était vraiment le tandem idéal pour moi pour vivre un accouchement, pour vraiment m'aider et me sentir plus sereine et plus forte, parce qu'il y a des moments où je disais j'en peux plus, enfin je peux pas le faire, ou amenez-moi la péridurale tout de suite, ou je vais jamais réussir à le sortir. Enfin, sur la fin, c'était assez paniquant parce que j'ai la poussée, ça a duré plusieurs heures, alors que c'est supposé, je crois qu'au bout de normalement 20 minutes, une demi-heure, ils interviennent parce que si le bébé est en difficulté respiratoire, etc., mais ça a vraiment duré très longtemps. Et je sais pas comment j'aurais fait, mais toute seule, sans soutien moral et physique à ce moment-là de ma doula et de mon mari, ça aurait été vraiment l'enfer, je pense.
Et au niveau de la maternité, c'est public, c'est privé? Comment ça se passe à Tel Aviv?
C'est public, donc c'est hôpital public. Il y a un suivi de grossesse à la maternité assez régulier. Et ouais, c'est public, c'est avec l'assurance maladie.
Donc la rencontre avec ton petit garçon, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu cette vague d'amour comme on voit un peu dans les films?
Ça a été vraiment j'ai ressenti ce, alors je sais que tout le monde le ressent pas et c'est tout à fait normal de pas forcément le ressentir parce que c'est une relation de toute façon qui se construit aussi. Effectivement, la porter pendant 8 ou 9 mois, mais c'est pas forcément évident. Il y a plein de mères qui expliquent qu'elles n'ont pas eu ce coup de foudre qui est pourtant le modèle unique. Hein. On nous dit en gros, si t'as pas le tout de suite cette vague d'amour et ce coup de foudre, peut-être qu'il y a un souci avec toi, avec ton instinct maternel qui n'existe pas, tout ça. Mais moi, je l'ai ressenti. J'ai vraiment eu ce moment où quand on me l'a posé sur moi, où j'ai eu ce ouais, comme une espèce de révélation, c'est un truc, c'est mystique, quoi. C'est, il est là. Enfin, je l'ai tellement fantasmé, je l'ai tellement imaginé, je lui ai tellement parlé quand je pouvais pas encore le voir physiquement. Et là, d'un coup, c'est un accomplissement. Enfin, c'est vraiment magique. C'est ça. J'ai vraiment ressenti ça au moment où on me l'a mis dans les bras. Et puis ensuite, on se rend compte aussi que. Bah c'est, ça aussi c'est que le début, enfin les sentiments qu'on peut ressentir au début, je pense que c'est de l'ordre aussi. Il y a beaucoup de choses hormonales, etc. En plus j'avais pas eu de péri, donc je pense que ça m'a aidé aussi à connecter. J'avais beaucoup d'ocytocine naturelle, etc. qui était qui circulait. Mais après c'est vrai que c'est rien comparé à ce qu'on construit derrière. Enfin, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est un, on se dit mais jusqu'où je peux l'aimer. Enfin c'est assez fort en fait. L'amour pour un enfant, c'est incomparable, c'est incompréhensible. Je peux pas imaginer. Même on se dit après, si j'ai un autre enfant, je pourrais pas l'aimer comme ça. C'est unique. Enfin, après toutes les femmes qui ont plusieurs enfants nous disent que oui, ça fonctionne aussi avec d'autres enfants. Mais vraiment, c'est tellement incomparable que. Mais c'est vraiment un truc qui se construit par contre, parce que c'est vrai qu'au début, quand une fois passé ce moment où il y a ce truc magique, cette explosion là de la rencontre. Il y a tellement de choses difficiles, on sent tellement la tête sous l'eau qu'on a l'impression d'être un peu en mode automatique et juste d'être quelqu'un qui est là pour la survie et pour conserver ce bébé dans de bonnes conditions. Mais le lien, à un moment donné, il a stagné un peu pour moi. Il y a quelque chose qui s'est un peu coupé. Je pense aussi quand je suis rentrée après, au fur et à mesure dans une dépression, j'ai eu une espèce de déconnexion avec lui et même avec moi, enfin avec mon corps, avec mon psychique, j'ai eu une espèce de coupure comme ça où j'étais plus qu'une machine à m'occuper de mon bébé. Et ensuite, ça a repris, enfin la construction de l'amour et du lien a repris de plus belle et de façon super forte depuis qu'il a 2 ans. Et là, ça fait 1 an où j'ai l'impression que c'est infini, quoi. Enfin, c'est un sentiment incroyable.
T'es restée combien de temps à la maternité après ton accouchement ?
Je suis restée 3 jours. Et puis on est rentré derrière, ou 4 jours, c'est 3 ou 4 jours, je sais plus. J'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé le séjour à la maternité. Je me suis sentie hyper isolée, hyper abandonnée. On venait pas me voir. Je savais rien. J'étais tellement dans les vapes. Il pleurait. Je savais pas pourquoi il pleurait. On me dit mais il a mangé. Je pensais qu'il avait mangé, mais en fait mon téton était un peu intro. Je sais plus comment est-ce qu'on dit intro. Enfin, il sortait pas assez en fait pour qu'il l'attrape bien. Donc il était à mon sein, je pensais qu'il tétait, mais en fait il prenait pas de lait. Et jusqu'au jour, en fait, il s'est passé 24 heures où il avait pris très 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 peu, 24 heures où il a quasiment pas mangé, il pleurait non-stop et personne n'est venu me voir. Et moi je me disais c'est un bébé, il pleure, c'est normal, je le prenais dans mes bras, je le berçais, mais en fait il avait faim et personne ne m'a assisté à ce moment-là, donc je trouvais ça assez fou. Il y avait énormément de monde, il y avait très peu de personnel j'étais un zombie, quoi. J'avais pas dormi, j'avais accouché de nuit, j'ai pas dû dormir pendant 48 ou 72 heures quasiment, à part des petits grappiers par-ci par-là, des petites 20 minutes, une demi-heure, il pleurait tout le temps. J'avais juste envie de rentrer à la maison, quoi. Je dis là, j'en peux plus, je veux juste rentrer. Et il y a beaucoup cette idée aussi que une fois qu'on a la maison, avec la cellule, tout va bien se passer, on retrouve nos repères. Et en fait non, parce que tout est différent et c'est compliqué aussi à la maison. Mais c'est vrai que la maternité, j'avais vraiment très envie d'en sortir. J'ai pas du tout aimé ça commence mal, quoi, pour la relation avec l'enfant, etc. D'être dans des conditions, j'étais dans une petite chambre partagée avec d'autres personnes, j'étais avec des rideaux. C'était exigu, c'était vraiment pas agréable.
Tu t'es fait accompagner pour l'allaitement suite à ça ou pas du tout?
Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a une personne qui m'a dit il a faim, donc elle m'a aidé avec une cuillère, donc on a fait sortir du lait avec une cuillère, on le nourrissait à la cuillère au début. Après ça, j'ai vu une conseillère en allaitement dans les jours qui ont suivi et qui m'a donné un téton en silicone pour l'aider à attraper. Mais après, c'est une solution qui peut pas durer non plus extrêmement longtemps. C'est assez galère, quoi, de toujours sortir le téton, de le désinfecter, etc. Et je me suis retrouvée, je me suis dit, bah, je vais peut-être passer au biberon, en fait. Enfin, je vais pas galérer avec ce téton pendant hyper longtemps. Et en fait, j'ai eu une copine qui m'a dit, mais il faut absolument que tu vois une autre conseillère pour essayer déjà, si tu veux allaiter, bah, essaye de trouver une solution avec quelqu'un, avec une professionnelle. Et elle m'a montré finalement cette conseillère au bout de, je pense que ça faisait 10 jours, 2 semaines que j'utilisais ce téton en silicone. Elle m'a montré comment pincer mon sein pour que le petit l'attrape bien. Et au fur et à mesure, au début, je pinçais tout le temps mon sein pour qu'il puisse le prendre en bouche correctement. Et après, en fait, le téton est sorti. Les tétons sont sortis au fur et à mesure et il a pu ensuite être allaité de façon plus fluide. Ouais.
T'as culpabilisé quand ça fonctionnait pas? Comment tu te sentais?
Oui, bah ouais, forcément. Je me suis dit, oh non, enfin, j'avais vraiment hyper envie d'allaiter. C'était vraiment quelque chose, comme je te disais au début, l'allaitement, c'était un des éléments de la maternité qui me faisait le plus fantasmer. Quand je voyais des femmes allaiter, pour moi, c'était cette espèce d'idée de retour à une animalité, à quelque chose d'hyper archaïque et qui me faisait hyper envie, pour je ne sais quelle raison. Et puis quand je me suis dit mais en fait mes seins sont pas adaptés, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, enfin il y a un souci avec moi, c'est pourquoi, enfin j'étais vraiment dégoûtée et c'est pour ça que j'ai pas lâché tout de suite, parce que je me suis dit bon, on va quand même tester d'autres choses. J'étais à un rendez-vous de la Leche League aussi, qui ont des cellules un peu partout, donc il y en avait une à Tel Aviv et puis ça m'a aidé aussi d'être avec un groupe de mères qui soit vachement dans l'entraide et dans la déculpabilisation aussi, des petits soucis comme ça où très souvent on est un peu laissé de côté. Si on va pas chercher par nous-mêmes, bah on laisse tomber parce que c'est trop compliqué. Avec les gerçures sur les tétons, etc. Comme il attrapait pas bien le sein, il me faisait mal, il me pinçait le bout, donc ça faisait hyper mal. Mais j'ai pas lâché le morceau et finalement ça s'est très bien passé ensuite au bout de quelques semaines d'adaptation. Après la machine est partie, c'était vraiment hyper agréable et j'ai adoré ça pendant, je pense, 4-5 mois. Et après, il y a vraiment eu ce moment, et je pense que c'était quasiment du jour au lendemain où je me rappelle que j'avais ces espèces d'impulsions où j'avais envie de le pousser de mon sein. J'avais envie vraiment de, quand venait l'heure de la tétée, il tétait énormément. Il est né à 4,2 kg, il a toujours été dans les percentiles 95 et 98%. C'est un bon bébé qui mangeait beaucoup, donc toutes les 1h30, 2h, il mangeait. Et je me rappelle que j'appréhendais le moment où il allait manger et j'attendais, quand il commençait à téter, j'avais envie qu'il termine, quoi. J'étais là, je le faisais par devoir, que le truc que je m'imposais comme ça. Et quand on me disait, essaie de faire du mixte si t'aimes plus trop ça ou passe au biberon. Et dans mon esprit, c'était quasiment du poison, quoi. Si je lui donnais du lait en poudre, j'ai l'impression de l'empoisonner ou d'être vraiment la plus affreuse des mères, alors qu'avec du recul, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas été allaitée, mes frères n'ont pas été. Enfin, il y a plein d'enfants qui sont pas allaités, qui grandissent extrêmement bien. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas grave du tout d'être en mix ou d'allaiter ou de donner le biberon. Mais dans ma tête, c'était impossible pour moi de passer au biberon. J'avais un blocage et je me suis infligée 3 mois d'allaitement où je ne prenais aucun plaisir et en fait, je pense que ça a aussi joué plus tard sur le sentiment de dépossession de mon corps, où j'ai l'impression que je m'appartenais pas, et ça influe aussi sur la sexualité, où ton corps, il est pour ton enfant, et j'arrivais plus à être un être sexuel et une mère, et tout mon corps, en fait, était dédié à cet enfant-là. En plus, il a toujours eu beaucoup de mal à dormir, donc je l'ai énormément bercé, je me suis déboîté l'épaule, je m'en suis pas occupée, enfin, en fait, j'étais une espèce de corps en vrac, dédié à mon enfant, et jamais je me suis dit, prends un peu soin de toi. Là, si t'as plus envie, ça veut dire quelque chose. Ton corps te dit quelque chose, ton esprit te dit quelque chose. Écoute-toi, je me suis pas écoutée. Et ça a été dans plein de pans de la maternité où je me suis toujours laissée au deuxième, troisième, dixième plan. Et c'est une erreur. C'est une grosse erreur.
Et à quel moment, alors, t'as craqué? À quel moment la dépression est arrivée?
Il avait 8 mois, donc ça coïncidait un peu. C'était la fin de l'allaitement, c'était l'accumulation du manque de sommeil. C'est un enfant qui a beaucoup de mal avec le sommeil. Il a 3 ans aujourd'hui, il s'endort pas seul. Il y a encore des réveils pendant la nuit. Hein, j'ai pas de chance avec ça. Il y a des enfants qui font leur nuit, qui dorment facilement, rapidement. Moi, j'ai pas tiré le bon numéro pour ça. C'est la cata. Et je dormais pas, les réveils enfin vraiment là, pendant un an et demi, c'était l'enfer. Le sommeil, c'était l'enfer. C'était des réveils au milieu de la nuit. Ça pouvait durer 2 heures où il sautait dans son lit. Il fallait être à côté de lui parce que sinon il pleurait. Il rigolait, il jouait au milieu de la nuit. Enfin, c'était pendant un an et demi, ça a été l'enfer. Après, il a commencé à peu près à faire ses nuits, mais avec toujours des réveils. Encore aujourd'hui, on le retrouve au milieu du lit. Il sort de son lit, il vient dans notre lit la nuit. Parfois, on s'endort avec lui parce qu'il veut pas s'endormir sans nous. Enfin, il s'endort pas tout seul. Il est pas du tout indépendant avec le sommeil. Et c'est vrai que et le manque de sommeil et le fait de encore une fois, enfin, j'avais l'impression que j'existais plus, quoi. J'existais plus. J'avais plus mes besoins primaires. Si j'avais envie de manger, envie de faire pipi, j'entendais même plus mes envies, en fait. C'était comme si j'avais disparu, quoi. J'avais complètement disparu. Et autour de ces 8 mois, c'était le paroxysme. C'était vraiment le moment où je me suis sentie. J'ai eu des moments de crise avant, mais ça a craqué quand il a eu 8 mois. Où j'avais en fait, même mon mec en fait s'en était pas rendu compte parce que je faisais bonne figure. Quand je pleurais, c'était sous la douche. Quand j'étais mal, je le montrais à personne, même pas à lui. Alors qu'on a une relation avant que mon fils arrive, on a une relation hyper transparente. Mais là, c'était ce truc de tenir l'image de la mère modèle et cet isolement-là parce que je correspondais pas à cette image-là, mais c'est ce que je voulais montrer aux autres, à ma mère, à mon mari, à tout le monde. Et ça a vraiment craqué parce qu'à un moment tu peux plus faire semblant pendant ad vitam. Et en fait c'est une fois j'ai fait une crise de nerfs, j'arrivais pas à l'endormir. Je me rappelle précisément de ce jour-là où il s'endormait pas, j'étais crevée, j'avais mal partout et en fait je suis sortie de la pièce j'ai fait une crise de nerfs vraiment quoi, à me rouler par terre, à pleurer sans m'arrêter ou vraiment on peut plus respirer tellement on pleure. Et c'est ce moment-là où mon mec a réalisé ce qui se passait et j'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Je suis rentrée en thérapie, ouais.
Tu travaillais, toi, à ce moment-là, pendant toute cette période ?
Moi, je suis en doctorat, donc à ce moment-là, j'avais fait une année de césure. J'ai eu, en fait, mon fils pendant un an en congé maternité. Je bossais un petit peu, mais j'étais pas... tu vois, j'écrivais mon doctorat, donc je pouvais bosser de la maison. Je me disais en congé, j'imaginais que j'allais pouvoir écrire un max pendant qu'il dormait, pendant qu'il faisait ses siestes et tout, alors qu'en fait, pas du tout de disponibilité mentale, pas du tout d'énergie. Donc en fait, j'ai quasiment pas bossé pendant un an. Je me suis occupée exclusivement de lui. Mon mec bossait énormément, donc il était là soirée, week-end, mais même, enfin, il avait très peu de temps en réalité pour prendre sa part. Il avait du temps, mais bon, enfin, j'étais vraiment moi la référente et l'experte de l'enfant pendant toute cette première année. Et ensuite, le truc, c'est qu'il y a plein de mécanismes et de choses qui se mettent en place pendant ces premiers mois et premières années de l'enfant et qui finalement perdurent. Donc, même maintenant où je bosse, il bosse, c'est quand même moi qui a plus de charges parce qu'on a pris des espèces de réflexes comme ça au début de vie de l'enfant. Et ouais, je suis devenue l'experte, quoi. Qui est-ce qui fait les recherches pour les jeux, pour l'éveil, pour la nourriture, les vêtements, etc., le pédiatre, enfin tout, quoi. C'est quand même majoritairement moi, toujours.
Au moment où tu comprends que, en fait, ça va pas du tout, tu décides de te faire suivre, comment tu vis cette transition, on va dire, entre l'ignorance de ton mal-être et ok, là, il faut que je fasse quelque chose parce que je pète un câble.
Ouais, à ce moment-là, c'est même plus un choix, c'est juste que t'as tellement tiré sur la corde que ça craque, enfin, et c'est comme ça, si on s'écoute pas, à un moment donné, ça craque. Et j'avais plus le choix parce que je fonctionnais plus. J'étais vraiment dans un truc, pendant trop longtemps, t'es en mode automatique où tu t'écoutes pas, et puis à un moment, c'est plus possible. Et la thérapie, ça a été, ça m'a sauvée, quoi. C'était vraiment, c'est une thérapeute que j'avais déjà vue avant, quand j'avais avorté 9 mois avant de tomber enceinte de mon fils, et j'avais fait une thérapie pendant quelques mois pour un peu dépasser ce stade, pour parler de l'avortement, parce que je savais que c'était pas anodin et que j'avais besoin d'en parler pour exorciser ça et ne pas être dans la culpabilité. Et puis j'avais cessé la thérapie quand j'avais réussi un peu à réparer ces choses-là en moi, et donc je suis retournée vers la même thérapeute quand j'ai fait ma dépression avec mon fils. Et elle est géniale, quoi. Ça m'a vraiment je la vois toujours, d'ailleurs. Je suis toujours en thérapie, mais on parle toujours beaucoup de maternité, hein. Il y a des problématiques qui disparaissent pas, il y a de nouvelles problématiques qui entrent au fur et à mesure. Donc c'est sans ça, je sais pas comment je ferais. C'est vraiment un moment pour moi. C'est, je la vois une fois tous les 10 jours. C'est un moment qui me permet de, c'est déculpabiliser, c'est me rendre compte que c'est pas individuel, c'est aussi un système qui nous abandonne. Donc c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas moi qui suis défaillante. C'est plein de facteurs qui font que c'est ingérable, en fait. C'est juste ingérable. Et ça me permet vraiment à chaque fois de, voilà, d'un petit peu de remettre les compteurs à zéro et puis de repartir en me disant c'est compliqué, ça va rester compliqué, il y aura toujours des sentiments ambivalents, ce sera jamais parfait et c'est pas grave, c'est déjà bien. Et d'essayer de prendre du plaisir et de me concentrer sur les moments de bonheur et les moments de plaisir au maximum. Et je pense que je suis sortie de la dépression, ça a pris plusieurs... En fait, ça a pris presque la dépression même, enfin vraiment pas pouvoir fonctionner, ça a pris quelques semaines, quelques, je dirais 2 mois. Et ensuite, c'était une espèce de mal-être maternel, je dirais. Et c'est pas linéaire. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça y est, je suis débarrassée de tous mes démons, toutes mes pulsions un peu dark. Mais en fait, j'accepte maintenant le fait qu'elles seront toujours là, qu'elles réapparaîtront, et que ça peut être même dans une même minute, hein. Il y a un moment où il se passe un truc avec ton fils, t'es là, c'est un moment de bonheur absolu où t'as l'impression que tout est en osmose, et puis, hop, une frustration, je le vois mal, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, et je tombe dans des espèces d'abysses où je me dis, voilà, je suis nulle, je sais pas m'occuper de lui, je supporte pas sa frustration, je veux pas qu'il soit mal, en fait. Et cette idée, elle me dit à chaque fois, ma psy, mais c'est impossible, c'est un être humain. Toi, est-ce que t'es bien tout le temps? Non, c'est un être humain, il a des émotions, il est exactement comme toi, et t'es juste là pour accompagner ton enfant dans ses émotions, mais tu peux pas réprimer complètement tout sentiment négatif de la part de ton enfant, c'est pas une machine. Donc, c'est ce sur quoi je travaille tout le temps, et ouais, je peux pas en fait l'empêcher d'être en souffrance, je peux pas l'empêcher d'être triste, je peux pas l'empêcher d'être frustrée, je peux juste être présente et accepter, et c'est tout, quoi, et faire en sorte qu'il devienne un individu à part entière avec tout le panel d'émotions qui revient aux c'est un être humain, quoi. J'ai du mal avec cette idée là
Et alors, t'as lancé le hashtag mon postpartum qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Tu l'as lancé avec 3 autres femmes. C'était quand d'ailleurs? C'était il y a un an?
C'était quasiment un an pile, c'était en février, ouais. 2020.
Comment c'est venu cette idée de parler du postpartum, justement, et de lancer ce hashtag?
Ce qui s'est passé au tout départ, c'est que j'étais tombée sur une publicité qui avait été censurée pendant les Oscars. C'était fin février 2020. C'était une pub pour des produits d'hygiène et de soins postpartum de la marque Frida. Et j'étais tombée sur un article, en fait, qui disait « Telle publicité a été censurée, ne sera pas diffusée pendant les Oscars. » Je me suis dit, waouh, si c'est censuré, ça doit être un truc super choquant ou super sanglant ou quelque chose de très graphique, parce qu'en plus, la raison, c'était pour contenu trop graphique. Donc, j'ai voulu aller regarder, je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur la publicité en question. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est une publicité complètement lambda, enfin super soft, c'était même hyper édulcoré, c'était vraiment une mère. Alors, c'était un vrai corps postpartum, donc c'était hyper émouvant de voir un vrai corps postpartum dans une publicité, parce qu'on n'en voit jamais, on n'en voit nulle part, avec la linea negra, avec le ventre un petit peu mou, rebondi, la culotte filée, on voit que la nouvelle maman, elle grimace quand elle va aux toilettes, on voit qu'elle est en souffrance, etc. Et tu te dis, waouh, tu te sens reconnue, quoi. T'es passé par là, t'as jamais vu d'image du postpartum, et tu te dis... Ça, c'était une espèce de reconnaissance, j'étais hyper émue de voir cette pub, et puis après coup, je me suis dit... Putain, mais si ils censurent ça, c'est vraiment que c'est le postpartum qui est tabou, c'est le postpartum lui-même, peu importe en quels termes ou dans quelles images tu vas le montrer, ce sera censuré, parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment pas violent ou graphique. C'était tout à fait soft, et ça m'a vachement énervée. Et sur le coup, j'avais posté des photos de moi que j'ai retrouvées dans mon téléphone, que mon mec avait pris de moi, d'ailleurs... quelques jours après mon retour de la maternité, et où j'avais la fameuse culotte filée et le ventre encore vachement arrondi, en fait, parce que même ça, je ne savais pas qu'on sortait de la maternité avec un gros ventre. Je pensais vraiment que tu rentrais dans ton jean une fois accouché. Et puis j'ai posté ça sur mes réseaux, il y a eu énormément de retours, et puis ensuite j'ai écrit un article sur le postpartum dans le magazine Chic, qui est un magazine en ligne féministe. Et comme j'ai vu qu'il y avait énormément de retours, énormément de remous, plein de commentaires des femmes qui venaient m'écrire dans mes messages privés, qui me disaient mais j'ai vécu mon postpartum, j'en ai pas parlé, personne ne parle de ça. Et c'est là en fait qu'avec trois amies, donc c'est Macha de Macha s'explique, Morgane Koresh et Ayla Sora, on s'est concerté et on a lancé ensemble le hashtag sur Twitter. Puisque c'est vrai que Twitter, c'est vraiment le réseau pour ce genre de campagne. On s'attendait pas du tout à ce que ça devienne ce que c'est devenu et à ce que ça prenne comme ça. Mais on l'a lancé et en quelques heures, il y avait près de 10 000 personnes qui l'ont utilisé. Enfin, ça a été fou. Enfin, pendant une semaine, il y a eu une énorme couverture médiatique, il y a eu énormément de témoignages. On passait nos journées à lire les témoignages et à pleurer. On était toutes, en fait, plus ou moins dans un... Il y avait Ayla qui était en postpartum pendant ce temps-là, Morgane qui a deux enfants, Macha qui a une petite fille. Donc, on était plus ou moins, enfin, toute nouvelle mère. Et nos postpartums étaient assez proches. Et en fait, ce qui s'est passé, qui était vachement intéressant, c'est que je me suis rendu compte que c'est pendant cette campagne-là que j'ai conscientisé mon postpartum alors qu'il avait eu lieu au moins un an et demi auparavant. Et qu'en fait, jusque-là, j'avais pas idée de ce que j'avais vécu. Je l'ai vécu parce que tu le vis, tu passes à travers et tu supportes toutes les épreuves, mais de façon tellement déconnectée en fait de ton corps et de ton expérience que j'avais pas réalisé. Et c'est là en fait en voyant tous les témoignages de ces femmes et de se dire waouh, en fait on est toutes dans le même bateau, j'étais pas toute seule à me sentir comme ça, j'étais pas toute seule à vivre ces difficultés. Et je me rappelle que j'arrêtais pas de pleurer, en fait. Je lisais les commentaires et je pleurais. C'était hyper cathartique. C'était une thérapie de groupe incroyable. Et c'est toute l'idée, en fait, que quoi qu'il arrive, nos expériences corporelles en tant que femmes, que ce soit le postpartum, que ce soit la sexualité, que ce soit la grossesse, enfin, toutes nos expériences corporelles, en tant que femmes, dans le système dans lequel on est de la domination masculine, on se retrouve, en fait, à être des corps observés et des corps perçus de l'extérieur avant d'être des corps vécus. Et on est dépossédé réellement de ce qu'on vit. Et ça, c'était pour moi un exemple flagrant parce que j'avais déjà vécu ce postpartum-là, je l'avais vécu dans mon corps, mais je n'avais pas réalisé ce que je vivais. Et je le réalisais juste là, a posteriori. Et c'est vraiment, c'était dans ma tête, c'était une explosion. Et là, je me disais, mais c'est juste là où, en fait, tous mes souvenirs, c'est comme si j'avais fait un blackout. Tous mes souvenirs revenaient, je me revoyais dans les premiers temps, je revoyais les difficultés, je revivais toutes ces émotions hyper difficiles, avec ce hashtag et en me rendant compte que c'était collectif et en partageant avec d'autres femmes, c'était hyper fort. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ensuite quand j'ai eu la proposition éditoriale. Je me suis dit, ça, c'est le moment, en fait, et il y a des militantes qui font ce travail-là depuis des années aussi. Il y a des podcasts, des militants depuis à peu près 2017-2018 en France qui parlent de ces questions-là. Le fait de le mettre en plein jour et de parler de ça et qu'on se rende compte tout ensemble qu'on n'est pas seul, ça fait qu'en fait qu'on soit informé, surtout informé, qu'on ait des représentations, qu'on puisse se voir dans les séries, dans les films, dans les publicités, qu'on s'en sort pas les publicités où on voit enfin nos corps pendant cette période-là. Une fois qu'on a des représentations et des modèles auxquels se raccrocher, à ce moment-là, quand nous, on va le vivre, ça va être complètement différent. On va vraiment vivre la chose, on va vraiment sentir, enfin, pas dépossédé de nos corps et de nos expériences. Et du coup, le vécu est beaucoup moins violent, beaucoup plus doux.
Comment t'as connu le mot postpartum ?
Je me rappelle pas exactement la première fois que j'ai entendu ce terme. C'est vrai que c'est pas du tout un terme connu. Encore aujourd'hui, il y a énormément de flou autour de ce terme. Très souvent, quand je donne des conférences en ligne sur la question, très souvent il y a une confusion entre dépression postpartum et postpartum. Les gens pensent que c'est ça a à voir avec la dépression, alors qu'en fait le postpartum c'est juste ce qui suit un accouchement. Donc toutes les femmes qui accouchent vivent un postpartum, et c'est une des problématiques en fait de cette période-là, c'est que c'est tellement flou, aussi bien qu'est-ce que c'est que le postpartum, et même quand les gens connaissent le terme, ils savent pas à quoi ça correspond, c'est quelle période, c'est circonscrit à quoi, c'est quelques semaines, c'est quelques mois, c'est une année, c'est... En général, les gens savent pas, et en fait, en faisant des recherches donc pour le livre, je me suis rendu compte que même dans le champ médical, il n'y a pas de consensus autour de la définition du postpartum. Si tu prends, certains chercheurs vont parler de 6 semaines, certains chercheurs vont parler de 3 mois, ça dépend si tu prends en compte les conséquences psychologiques ou juste physiques, ou juste les mots physiques les plus les plus importants qui se résorbent plus ou moins au bout de 6 semaines, l'utérus qui reprend sa place, etc., ces choses-là, les saignements, les loci. Mais en réalité, ça peut, y a des chercheurs qui parlent de 1 an révolu. Il y en a qui parlent de 2 à 3 ans. Il y a des psychologues qui disent que pour vraiment retrouver sa psyché pré-accouchement, etc., il faut, et encore, enfin, complètement, c'est jamais le cas en réalité parce qu'on change identitairement. Mais ça peut prendre 2 ans, 3 ans, et c'est super subjectif. Ça dépend des femmes, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles tu vas vivre ton postpartum, parce que si tu pars dans des conditions extrêmement dures, que tu passes par une dépression, que tu as très peu de soutien, ça peut s'étendre encore plus longtemps. Donc en fait, il y a vraiment un flou autour de cette notion et qui est en fait très problématique pour les femmes qui vivent leur postpartum, parce qu'elles ont, par exemple, moi quand j'ai fait ma dépression, je pensais pas que c'était une dépression postpartum, mais il avait 8 mois. Donc pendant ma tête, le postpartum c'était quoi? C'était 3, 4, 5 semaines. J'avais pas idée que ça pouvait être beaucoup plus long en fait, ce temps-là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un suivi personnalisé, qu'il y ait un suivi psycho et physique personnalisé en fait par rapport aux besoins de chaque femme, parce qu'on le vit toutes différemment. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plus d'informations sur ce qu'est le postpartum, sur l'accompagnement au postpartum, la préparation, de la même façon qu'il y a une préparation à l'accouchement, il faut qu'il y ait une préparation au postpartum. Obligé. Quand on est enceinte, il faut une préparation au postpartum. On t'explique ce qui peut se passer, quels mots tu peux vivre. Après, chaque femme est différente, encore une fois. On n'a pas toutes les mêmes symptômes, pas toutes à la même intensité, mais il faut qu'on soit informé sur la question et il faut qu'on soit suivi sur un temps qui soit pas un temps court.
Et il faut aussi que les papas puissent être là, ou les compagnes.
Ça, c'est une vraie, vraie, vraie problématique. Là, les congés parentaux, si on n'a pas de congés parentaux et obligatoires pour le coparent et égalitaires en termes de temps, on n'arrivera jamais en fait à alléger la charge, à vraiment partager plus équitablement la charge entre les deux parents et à éliminer aussi les inégalités qui vont dans le prolongement en fait de cette période postpartum, parce que c'est pas uniquement pendant ce temps-là, c'est aussi l'impact que ça a sur la vie professionnelle et les évolutions de carrière des mères, des femmes pour toute leur vie en fait, parce que on parle très souvent du risque maternité quand tu te présentes un entretien d'embauche et que t'as la trentaine. Bah, le mec, il va, ou enfin le recruteur ou la recruteuse ou la recrutrice, je sais pas comment dire, mais il va plutôt prendre un homme parce qu'il se dit bah il y a le risque maternité, elle va peut-être faire un enfant dans les temps qui viennent, je préfère prendre un homme. S'il y avait des congés parentaux égaux, bah, déjà on se présenterait de voilà, il y aura un risque parentalité et pas un risque maternité. Ça c'est déjà c'est hyper important et quand la charge de l'enfant, la charge domestique pèse le plus sur les mères. Bah, c'est au détriment de leur vie professionnelle, c'est au détriment de leur évolution de carrière, et on le voit dans les chiffres, hein, après l'arrivée d'un enfant, et alors d'un second a fortiori, les inégalités se creusent au maximum. C'est terrible.
Et toi, t'es militante aussi féministe. Est-ce que c'est quelque chose que tu étais déjà avant d'être maman, ou c'est venu justement avec la maternité, avec tout ce que t'as appris du postpartum, et ça a accentué tes combats?
Ouais, alors j'étais déjà féministe en germe, je dirais. J'avais déjà beaucoup de, disons que j'étais mon, la maternité a complètement renforcé. C'est tellement en fait un moment où tu te prends des injonctions dans la tête en fait de toutes parts, et où toutes les injonctions en fait que le genre féminin se tape non-stop sont complètement, enfin il y a une espèce, ça devient énorme en fait, ça prend de plus en plus d'ampleur, et tu te rends vraiment compte de ton statut dans la société, de la discrimination en fait sur le genre féminin au moment où tu deviens mère, parce que c'est des injonctions contradictoires, c'est intenable quoi, c'est vraiment insupportable. Donc ça a complètement renforcé ma conscience féministe, et ça a surtout ça m'a sorti, je suis devenue beaucoup plus militante active, on va dire. Avant, c'était plus des idées, c'était plus des discussions que j'avais dans mon entourage, mais j'étais moins dans l'action, aussi bien sur les réseaux qu'en dehors. À partir de là, ça a ouvert tellement de choses en moi, de colère, mais de colère positive. Enfin, quand je dis colère, c'est vraiment pas négatif, c'est de la colère qui mène à de l'action et à une volonté de changement. Et puis c'est à partir de ce moment-là aussi où je me suis beaucoup impliquée dans les questions de violence faite aux femmes. On a lancé en Israël avec Morgane justement les colleuses en Israël. Enfin, il y a plein de choses en fait qui ont commencé à partir de ce moment-là où je me suis sentie Ouais, c'est une espèce de feu comme ça, de rage qui s'est embrasé vraiment au moment où je suis devenue mère.
Est-ce que tu penses à ta manière d'éduquer ton fils justement dans le féminisme ?
Ouais, bien sûr, ça c'est aussi une énorme question de pouvoir d'élever un petit garçon qui soit un bon allié, qui se rende compte des privilèges qu'il a en tant qu'homme dans nos sociétés et qui soit un bon allié pour les femmes. Il a 3 ans, donc il n'y a pas encore énormément de choses à mettre en place, mais déjà je l'éduque de façon non genrée. Il a les cheveux longs, tout le monde pense que c'est une petite fille, mais rien que ça, c'est une porte d'entrée pour un petit peu déconstruire. Quand on me dit elle, je dis bah, c'est un petit garçon, et puis les gens se confondent en excuses, mais c'est pas grave. Enfin, il y a rien de grave, c'est pas, on s'en fout. Et ou les histoires de vêtements, de genre, etc., de jouets. Enfin, je lui propose tout. Dès que je sens qu'il y a dans ma famille ou même à la crèche, des choses comme ça, ou même parfois, j'ai une anecdote où j'étais allée lui acheter un manteau, il avait 2 ans, et la vendeuse, c'était un manteau qui était gris et l'intérieur était rose. Et donc il y avait l'intérieur rose pour les petites filles et un manteau avec intérieur bleu pour les petits garçons. Et je prends le manteau, il me fait c'est une petite fille, c'est un petit garçon, je suis un petit garçon. Il me dit ah bah attendez, je vais vous chercher le manteau avec l'intérieur bleu. Je lui dis mais je m'en fous. Enfin, et elle est allée me chercher, elle a pris 10 minutes de son temps pour me trouver le manteau avec l'intérieur en fourrure bleue. J'étais hallucinée, j'en veux pas. Enfin, et de pouvoir commencer même des discussions, c'est compliqué hein, parce que c'est des choses qui sont ancrées. Mais de commencer des discussions là-dessus, c'est hyper important pour moi. On a notamment justement avec les collages, on a été collés autour de crèches, dans des endroits où il y a beaucoup de crèches sur l'éducation non genrée. Mon fils n'a pas besoin d'être fort, ma petite fille n'a pas besoin d'être mignonne ou une princesse, enfin des choses comme ça où on essaie un peu de déconstruire tout ça. Sachant que la société israélienne, alors le patriarcat et ses histoires de genre sont partout, mais la société israélienne c'est quand même costaud sur ces questions-là. Ils sont extrêmement patriarcaux et il y a un rapport aussi à la virilité qui est hyper pesant. C'est aussi dû au fait que bah il y a l'armée, enfin il y a quand même des facteurs socioculturels qui font que je pense que c'est encore plus renforcé au niveau de cette distinction entre les petits garçons, les petites filles. C'est très courant d'entendre mais tu pleures pas, t'es un garçon, tu pleures pas, t'es fort. Enfin bon, moi ça m'insupporte totalement. Donc maintenant je relève tout le temps. Je m'en fous, peu importe. Je suis dans un magasin, je suis dans un truc, je relève tout le temps. Je lâche rien sur ça. Je suis vue comme la chieuse souvent dans la famille où par exemple je dis à ma mère non, tu l'embrasses pas s'il veut pas que tu l'embrasses. Elle comprend pas, ça c'est impossible. Alors dans toutes les familles, je pense que c'est compliqué à faire passer, mais dans les familles traditionnelles, je suis d'une famille juive où on est très tactile, où on s'enlace, on s'embrasse, enfin les trucs. Et je lui dis, bah non, si là il a pas envie, bah il veut pas, tu ne le forces pas à t'embrasser, il fait pas de câlin s'il veut pas, et ça passe super mal, mais je lâche pas parce que ces histoires de consentement, ça commence depuis l'âge zéro, quoi. Si c'est ton corps, t'as pas envie de faire un bisou à mamie, ben tu lui feras quand t'auras envie, et si t'as pas envie, t'as pas envie. Et ça, c'est très compliqué. mais ouais, voilà, j'essaie vraiment de l'éduquer dans un espace qui soit ouvert pour lui, dans le champ de ses possibles. J'ai pas envie de le restreindre à telle ou telle activité parce que c'est un garçon, parce que ça. Je lui propose tout. Ce qu'il aime, il fait. Ce qu'il aime pas, il fait pas. Et j'essaie vraiment de lui imposer au minimum des choses en fait qu'il aurait pas choisi en termes de ouais, ça peut être aussi bien les jeux que les vêtements, que pas les comportements. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait pas de genre qui entre dans la question de l'éducation. Ouais. Et pour la question de, je parlais des violences sexuelles et c'est vrai que j'étais très choquée. Il y a quelques mois, il y a eu un viol collectif qui s'est passé en Israël dans la ville d'Eilat, où je sais pas si t'en as entendu parler, ça a fait assez grand bruit puisqu'il parlait d'un MeToo israélien qui aurait débuté à ce moment-là, où une jeune fille, une très jeune fille, a été violée par 30 hommes, qui faisaient la queue devant une chambre d'hôtel et elle était presque inconsciente et en fait ça me, il y a ce truc en fait où on a de dire que ces personnes-là sont des monstres alors que ce ne sont pas des monstres, ce sont des jeunes hommes et des hommes qui sont conditionnés et éduqués d'une certaine façon en fait à ce que tout leur est dû, que ce qu'ils veulent ils peuvent le prendre, et c'est comme ça qu'on éduque les petits garçons depuis le plus jeune âge. Et je suis terrifiée en fait à l'idée que mon fils un jour puisse ou bien abuser d'une autre personne, ou bien se taire devant une telle chose, parce que s'il y avait 30 personnes devant cette porte d'hôtel, il y en avait qui participaient, il y en avait qui regardaient, il y en avait qui filmaient, Et je veux vraiment en fait que mon fils soit sensibilisé à ces questions-là et qu'il soit jamais silencieux en fait en face de des violences, en face de sexisme, qu'il soit celui qui reprenne ses copains s'il y a des mots déplacés, des gestes déplacés. C'est hyper important pour moi vraiment de ces questions-là de violence, de violence de genre en fait. C'est des violences masculines et je veux en aucun cas qu'il participe à ce système-là, en espérant que le système évolue, mais en tout cas déjà à mon échelle. Je voudrais qu'il soit vraiment très conscient de tout ça.
Il y a ton mari justement là qui est pas loin, je l'entends. Est-ce que vous êtes synchro sur ça, sur cette façon d'éduquer justement dans le féminisme?
On est synchro. Après, c'est vrai qu'il y a des choses en fait parce que c'est un homme et parce qu'il n'a pas la même expérience que moi j'ai en tant que femme depuis toujours. Il peut pas comprendre. Enfin, il y a des choses qu'il peut pas comprendre sur du sexisme ordinaire qui relève pas parce que juste il a pas. C'est pas quelque chose qu'il a vécu, c'est pas quelque chose qu'il subit, donc je dois lui expliquer. Donc c'est des choses que j'explique. Il est à l'écoute, donc il comprend. Et pour ce qui est de l'histoire de l'éducation non genrée, du consentement, ça par exemple, il a du mal. Voilà, ce truc du consentement, c'est quelque chose où quand il lui fait des guilis, je lui dis, et que le petit dit arrête, je dis bah arrête de lui faire des guilis. Et il me dit mais non, mais il rigole. Je fais oui, mais moi aussi tu me fais des guilis, je rigole. Mais si j'ai dit arrête pendant les guilis, ça veut dire que ça me dérange, que c'est douloureux. Tu rigoles par réflexe, ça veut dire qu'il prend du plaisir à ça. Il t'a dit arrête. Et comme il est dans le jeu avec lui, il a du mal. Il se dit mais non, mais c'est bon enfant, c'est pour rigoler. Je dis ouais, mais c'est son corps, tu vois. Tu lui fais des guilis. S'il te dit arrête, c'est qu'il a plus envie. Et c'est hyper important qu'il sente que s'il dit arrête, ben la personne en face, elle va arrêter, peu importe que ce soit un câlin, un bisou, des guilis. Peu importe en fait, et c'est ce qui va permettre, si tu respectes son consentement tout le temps, c'est ce qui va permettre aussi à lui plus tard de respecter celui des autres. Ça va dans les deux sens. Et donc ça, je c'est récurrent. Hein. Il lui fait des guilis, il arrête pas, donc je le reprends. Et c'est quelque chose qu'il comprend pas forcément. Ça dépend des questions. Ouais. Il y a des choses sur l'éducation non genrée, les vêtements, les choses comme ça, de tout lui proposer, il comprend, il est complètement dedans. Sur l'histoire du rapport au corps. Comprend pas forcément, pas surtout. Donc je continue à ma bataille, mais c'est pas toujours évident de faire comprendre à l'entourage. Ouais.
Donc là, tu sors le livre Ceci est notre postpartum. C'est un projet qui est venu, j'imagine, assez naturellement de ton expérience. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage?
Alors, en fait, c'était vraiment juste à la suite de la campagne autour du hashtag où une maison d'édition m'a contactée parce qu'il voulait un ouvrage avec un angle sociologique. Moi, je suis en doctorat de sociologie et il voulait vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de la déconstruction des tabous et tout ce qui tourne autour de l'expérience du postpartum avec un angle historique et sociologique, donc vraiment retourné dans les racines de notre civilisation. Pourquoi est-ce que c'est pas montré? Pourquoi est-ce qu'on l'expose pas, on le représente pas? Qu'est-ce qui est aussi tabou dans cette expérience-là et dans ce corps-là? Et j'ai écrit du coup ce livre. J'ai commencé au tout début du premier confinement, donc c'était assez angoissant parce que le petit n'avait plus crèche, on était enfermé à la maison, c'était un confinement hyper strict qui a duré plusieurs mois. Et donc ça a été très dur en fait parce que j'ai commencé à écrire à ce moment-là et j'ai un peu paniqué. Je me suis dit mais comment je vais faire quoi? Déjà le vertige d'écrire un livre, c'est la première fois que je fais ça. Alors même si j'écris énormément, je suis en thèse, j'ai pas de problème avec l'écriture, mais c'est vrai que c'était une première expérience pour moi d'écriture d'un livre conséquent avec une vraie problématique. Et c'était et au final en fait ça m'a porté quoi. C'était vraiment ce moment d'écriture, c'était mon c'était mon phare dans la nuit du confinement qui a été très très dur pour moi, et j'avais ce projet, j'avais cet objectif, et ça m'a tenue. C'était un cadeau en fait de pouvoir écrire à ce moment-là. Et alors ce dont je parle dans ce livre, c'est donc dans un premier temps je parle justement de tout ce qui est tabou autour du corps, autour de la douleur des femmes, autour des fluides, le sang, en fait le fait que je déroule un petit peu toutes les raisons pour lesquelles le corps postpartum et l'expérience postpartum n'est pas montré. Je vous en dis pas plus, faudra lire le livre. Mais il y a cette partie-là, et il y a une partie aussi sur parce que j'aime bien faire des constats, mais je veux toujours voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on peut changer le système. Et donc je dresse des pistes politiques, et collective, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des ouvrages qui existent sur les problématiques individuelles, comment mieux manger, comment, enfin, l'ostéopathie, tous les soins, toutes les choses qu'on peut faire individuellement pour mieux vivre son postpartum. Mais moi, j'avais envie de prendre l'angle plus large, plus collectif et militant, et comment est-ce qu'on change, en fait, une culture, en fait, globale et un système pour que les femmes puissent enfin vivre mieux leur postpartum et de façon beaucoup plus égalitaire, que ce soit avec le coparent, mais aussi avec les services de santé, qui est de véritables politiques de santé publique pour accompagner, pour prévenir les problématiques. Il y a aujourd'hui entre 20 et 25% des nouvelles mères qui font une dépression. C'est énorme. C'est énorme. C'est un vrai problème et c'est pas pris à bras le corps. C'est pas considéré comme ça devrait l'être. Donc voilà, je dresse des pistes militantes et collectives pour sortir de ce schéma-là, parce qu'il faut en sortir, quoi. C'est pas possible. On peut pas continuer indéfiniment à se retrouver comme ça, isolé, et avoir l'impression d'être seul et d'être abandonné par un système entier.
Qu'est-ce que tu dis, toi, à tes amis qui vont avoir un bébé? Est-ce que tu as une phrase clé, justement, sur le postpartum?
Alors, après, il y a toujours cette question de tu veux pas non plus leur faire peur ou les faire descendre de leur petit nuage si elles étaient, par exemple, comme moi, complètement complètement naïves et la tête dans les nuages. Donc, je dis juste, pour moi, la clé, c'est vraiment d'être informée. Donc, je propose des lectures, j'offre des livres, je propose des comptes Instagram ou des voilà, de suivre des contenus, en fait, sur ces questions-là, d'écouter des podcasts pour se rendre compte, en fait, qu'il y a énormément de modèles différents de comment est-ce que tu vas vivre ta maternité. Tu n'as pas à rentrer dans tel ou tel modèle. Il n'y a pas de mauvais modèle tant qu'on n'est pas dans la maltraitance. On est une bonne mère. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a dans les conditions dans lesquelles on se trouve. On est une personne unique. Donc, et notre relation avec notre enfant, elle est unique. Il faut pas essayer de se comparer ou de coller à des modèles préconçus. Il faut vivre la chose et être bienveillant avec soi-même. Et je conseille aussi de parler autant que faire se peut, de pas rester dans un silence, en fait, parce que le problème, c'est que c'est difficile de parler parce qu'on est dans un système où, encore une fois, on a tellement peu de modèles et tellement peu de voix pour pouvoir prendre la parole et même d'être écouté. Parce que je dis souvent, moi, j'ai essayé de parler plusieurs fois, que ce soit à ma mère ou à des copines, pendant que j'étais en plein marasme du postpartum, et je me rappelle qu'en fait, très très vite, on m'empêchait de parler, pas par des petits mots un peu bienveillants, mais qui en fait sont des espèces d'injonctions à se taire quand on te dit oui, d'accord, c'est dur, mais bon, c'est normal, c'est comme ça, c'est dur, et puis t'as un enfant en bonne santé, puis regarde comme il est mignon, et puis donc tout de suite on te dit ah bah oui, donc je devrais être juste contente et juste heureuse, et on t'empêche en fait de parler des choses qui sont compliquées. Donc il y a une silenciation de l'extérieur, et donc au final il y a une autocensure, parce que quand tu sens que on t'écoute pas. J'ai essayé plusieurs fois de dire à ma mère, maman, là, c'est dur pour moi, ou là, par exemple, j'ai pas envie d'être avec lui, je me sens oppressée, j'ai pas envie d'être avec lui. Et elle me disait, elle était complètement offusquée, elle me disait, mais comment tu peux dire ça? Regarde comme il est adorable, c'est ton fils, tu l'aimes. Comme si, en fait, le fait d'avoir des sentiments négatifs, ça allait effacer l'amour que t'as pour lui. Tu peux pas avoir les deux. C'est soit tu l'aimes et t'es tout le temps heureuse, soit si t'as des sentiments ambivalents ou que des fois t'es mal, ben c'est tu l'aimes pas vraiment, ou alors t'as un problème dans ton système maternel, il y a un truc qui va pas chez toi. Donc moi je dis tout le temps, je préviens, ça va pas forcément être que facile, il y aura des difficultés, je suis là si t'as besoin, il faut aller demander de l'aide, faut aller voir des professionnels, parce que malheureusement ça vient pas vers toi, ça devrait être automatique, mais très souvent il faut que tu fasses la démarche. Et j'essaie d'être présente aussi au moment où la personne accouche, d'offrir des cadeaux à la maman, d'aider la maman, pas forcément toujours des petits cadeaux pour le bébé, ouais, on en a des tonnes, on en a des montagnes, ça sert à rien, des choses pour aider la mère plutôt, des repas, lui livrer des repas, ou de l'aide pour le ménage, des choses comme ça, mais vraiment s'informer et ne pas trop imaginer en fait les choses, essayer de faire avec le réel, en fait, parce que le réel, il est très différent de ce qu'on peut fantasmer.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Oh, mais tout. C'est il y a ce concept là de matrescence. Je crois que c'est une historienne, une sociologue qui parle de ce concept là au départ, où comme pour l'adolescence, on passe de l'âge de l'enfant à l'adulte, où il y a une transition. Il y a vraiment cette idée, en fait, de la femme à la mère. Il y a une transition et un changement identitaire qui est absolument énorme. Enfin, c'est incroyable ce changement-là. C'est très difficile. C'est douloureux et c'est merveilleux en même temps. Mon fils a 3 ans, j'en suis pas sortie encore, quoi. Je me sens pas encore, je me suis pas retrouvée, que ce soit sur le plan sexuel, sur le plan identitaire, j'ai l'impression que je me suis pas retrouvée encore. Il y a quelque chose qui est, j'ai pas encore reconnecté mon moi d'avant et mon moi de maintenant. Ma psy me dit tout le temps, il faut que t'acceptes que tu seras plus jamais celle que t'étais avant. Et parfois j'ai du mal parce que c'est vrai que tu te dis, t'as des souvenirs de voilà quand t'étais jeune fille, que tu sortais, que t'avais une sexualité vachement facile. Enfin, il y avait ce truc un peu de, c'était facile. Moi, j'étais connectée à mon corps, j'avais aucun souci là-dessus. Depuis que je suis mère, je me suis pas reconnectée à mon corps et à mes envies, à mon désir, à plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui sont encore en friche. Ça prend énormément de temps. Et d'un autre côté, enfin, tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est aussi dû à la maternité. Donc Et je suis pas dans le regret maternel. On me donnerait une baguette magique, j'aimerais pas revenir en arrière. Mais je suis dans l'ambivalence, je suis dans les difficultés. Enfin, voilà, c'est tout le temps ce truc un peu ambigu. Mais ça m'a apporté plein de choses positives. Je me sens beaucoup plus forte. Je me sens beaucoup plus construite. J'ai l'impression d'être plus profonde, d'avoir plus de richesse intérieure. Ça m'a apporté des nuances aussi d'amour. Enfin, j'aurais jamais cru pouvoir aimer comme ça. Enfin, c'est incroyable. Ça, c'est, rien que pour ça, c'est fou. Mais ça m'a aussi apporté beaucoup de... Il y a beaucoup de pertes de soi aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que nous apporte la maternité ou ce que nous apporte un enfant, mais on ne parle pas beaucoup de ce que ça nous enlève aussi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a une sorte de décomposition, et après, il faut reconstruire, et je suis encore dans la phase de reconstruction.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman tel-avivienne ?
Les mamans tel-avivienne, elles sont... Elles sont assez relaxes. Il y a un côté, ce que j'aime bien à Tel Aviv, il y a un côté très kids-friendly que je retrouve pas en France ou même aux États-Unis. Mon mari est américain, c'est où les enfants qui pleurent, on te regarde de travers, ou les restaurants, enfin, c'est pas super friendly pour les enfants. Les enfants sont partout ici. C'est un pays, enfin, une ville où il fait chaud 9 mois de l'année, où plein soleil, on a peut-être 2 mois d'hiver. Donc, on est tout le temps dehors. Il y a énormément d'enfants dans les cafés qui se baladent partout. Il y a la plage. Donc, c'est une maternité. Enfin, être une mère tel-avienne, c'est être une mère assez libre. Pareil pour l'allaitement. Je sortais mes seins partout. J'avais pas de regard. Enfin, en France, j'ai senti que c'était beaucoup plus compliqué. Aux terrasses de café, on me regardait bizarrement. Alors qu'à Tel Aviv, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Donc, il y a un côté assez libre sur ces questions-là. Ouais.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Tel Aviv ?
La plage. La plage, en plus il adore ça, enfin sa crèche est juste à côté de la plage, donc très souvent on sort, on va se balader au bord de l'eau, c'est hyper agréable, ça c'est vraiment un luxe.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Projet rien que pour moi, j'aimerais terminer ma thèse cette année, c'est le gros, là j'entre en promo du livre, donc je vais être très occupée avec ça, je vais être à Paris pendant 2 semaines mi-janvier. Donc projet à moi, faire une belle promo pour le livre, réussir à être fière de moi et prendre du plaisir, parce que c'est aussi une question assez compliquée pour moi de lâcher prise, de prendre du plaisir dans les choses, donc réussir au maximum à prendre du plaisir. Et pour les projets en famille, un voyage, j'aimerais vraiment à la fin de cette période de merde, une pandémie, pouvoir faire un voyage avec mon mari et mon fils.
Merci beaucoup Ilana.
Merci.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast, cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Ilana, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 70 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.